C'est la troisième fois que nous parlons de ce psaume 107. Nous allons lire le texte qui s'y rapporte et qui commence au verset 17. J'attends quelques secondes pour ceux qui ont eu la bonne idée d'amener leur Bible avec eux. Moi-même, j'ouvre la page et c'est au verset 17, à partir du verset 17 que nous lisons. Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture, ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce, qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Le premier soir, mercredi, nous avons vu ceux qui étaient dans la main de l'ennemi, un peu comme nous étions tombés au pouvoir de l'ennemi pendant la dernière guerre. Notre responsabilité était de ne pas nous être suffisamment préparés à lui résister et d'avoir sous-estimé sa valeur. Notre excuse, c'est qu'ils étaient les plus forts. La deuxième fois, jeudi soir, nous avons vu ceux qui avaient élu domicile dans les ténèbres à l'ombre de la mort. Leur excuse, c'était peut-être d'y être né dans ces ténèbres. Leur responsabilité, c'est peut-être d'y être entré, ou de ne pas avoir voulu en sortir, ou de s'y être complu. Mais ce soir, et je salue le grand nombre de personnes présentes, c'est d'ailleurs pourquoi j'essaye de faire un très léger, très court récapitulatif, ce soir, nous touchons une autre catégorie de personnes. Ce sont ceux qui n'ont pas d'excuses. Ce sont ceux qui, nous l'avons lu, se sont eux-mêmes rendus malheureux par leur conduite coupable et insensée. D'où le titre de cette soirée, Mea culpa. Quand les hommes comparaîtront devant Dieu, ils seront sans excuses, car il est écrit, dans l'Épître aux Romains chapitre 3, verset 19, « Toute bouche sera fermée ». Dieu, pour laisser l'homme sans excuse, n'attend pas l'éternité. Il s'y emploie dès maintenant. Dieu veut que l'homme se prépare à le rencontrer en lui donnant un échantillon, un avant-goût de ce qu'il attend. Ce que Dieu veut, c'est faire mourir les excuses, afin que l'homme soit prêt pour le jour où il n'aura plus rien à dire parce qu'il ne trouvera plus d'excuses. Dieu ne veut pas que le jugement soit chose entièrement nouvelle. Il ne veut pas que sa créature soit prise au dépourvu, et il trouvera dans l'âme et l'expérience de l'homme de quoi l'éclairer sur ce qui l'attend. Et l'homme en a bien besoin, car nous vivons dans un monde qui ne reflète en rien l'image du ciel et des choses à venir. Nous vivons dans un monde déformé, un monde de demi-mesure, un monde d'excuses, où l'on arrive à tout justifier. Toutes les vilenies, tous les crimes, toutes les faiblesses, tous les péchés, on finit par se croire dans un monde d'irresponsable, où on peut impunément rejeter l'accusation sur les autres. C'est un tel, c'est une telle, c'est lui, c'est elle, c'est les autres, c'est ceux d'en face, c'est pas ma faute, je n'y suis pour rien. Tel est le langage qu'on entend en profusion aujourd'hui. Mais ici, ces gens n'ont personne d'autre à blâmer qu'eux-mêmes. Ces hommes du psaume 107 sont les artisans de leur propre malheur. En fait, ils récoltent ce qu'ils ont semé. Des semences de chardon n'ont jamais fait pousser des artichauts. Et cette loi est applicable dans les choses spirituelles, que personne ne s'imagine récolter autre chose que le jugement s'il a semé le péché. Regardez le fils prodigue de la parabole bien connue, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Il ne songe d'ailleurs pas à blâmer quelqu'un d'autre. Il n'est pas corrompu au point de blâmer son père, son éducation, son entourage, ses compagnons de plaisir et de péché. Il se sait être le seul artisan de son malheur, et il ne fait pas son mea culpa sur la poitrine d'un autre. Personne ne peut être incriminé que lui seul. D'ailleurs, son salut, ce sera de le reconnaître honnêtement. Voyez-vous, l'homme a suffisamment de raisons de s'accuser sans aller chercher des raisons de blâmer autrui. Prenez ces jeunes cagoulés des émeutes de l'année dernière en France qui se sont livrés à des violences et des déprédations inqualifiables. Quel dilemme pour les juges! Certains de ces vandales étaient des jeunes gens de la meilleure société, des plus honorables familles de la ville. Qu'est-ce qui a bien pu les pousser à commettre des actes tellement contraires à l'éducation qu'ils avaient reçue? Si le péché prolifère dans l'ignorance et la misère, il trouve un terrain tout aussi favorable dans l'aisance et la richesse. La corruption morale des couches privilégiées et des cours royales d'Europe en sont un exemple indiscutable. Le cœur de l'homme est mauvais dès son enfance, dit la Bible. Et l'homme trouvera assez de péché dans son propre cœur, sans devoir dépendre des autres pour s'attirer le malheur sur sa tête. Il ne faut pas nous apprendre à pécher comme il nous faut apprendre à aimer la justice. La médisance, par exemple, n'a pas eu besoin d'aller à l'école, elle est autodidacte. Il n'y a pas que je sache de philosophie du mal. Le mal ne s'enseigne pas, au contraire, il se combat partout, mais il reste maître du champ de bataille. L'homme pêche avec autant d'instinct et de facilité que le castor construit son ingénieux barrage sur la rivière, ou que l'araignée tisse sa toile digne d'un conte de fées. L'homme a le génie du péché comme l'oiseau a le génie du vol. Depuis qu'il a été chassé du paradis, l'homme a traîné son péché avec lui partout, et il l'a mis dans toutes ses entreprises, même les plus belles, celles qui laissent percer un reste de la grandeur qu'il a reçue de Dieu. Mettez l'homme seul dans une île déserte, il péchera. Dans l'île presque inaccessible de ses pensées, il péchera encore. Qu'il entre au couvent ou dans un monastère, il emmène son péché avec lui, et tout en marmottant des prières, son esprit sera occupé des choses que sa conscience désapprouve. Ne croyez pas que j'exagère. Je vous livre le témoignage d'un homme que beaucoup envie et admire pour le sérieux et la droiture de sa conduite. À une certaine époque de sa vie, pressé sans doute par des circonstances difficiles, il s'était laissé surprendre par le péché. Un jour, en prenant sa Bible, elle s'ouvrit dans le livre du prophète Jérémie à une page qu'il ne cherchait pas, et ses yeux tombèrent sur le verset 33 du chapitre 2 qui lui fit l'effet d'un coup de poignard dans le cœur. Et voici ce qu'il a lu. « Comme tu es habile pour chercher ce que tu aimes, et tu t'y exerces jusqu'à l'iniquité. » Il vaut la peine de relire. « Comme tu es habile pour chercher ce que tu aimes, et tu t'y exerces jusqu'à l'iniquité. » Il avait là devant ses yeux son attitude des semaines précédentes. « Que tu es habile !» Que le millénium arrive, cet âge d'or dont parle la Bible, dans lequel Satan, le grand instigateur du péché, sera lié pour 1000 ans, eh bien l'homme péchera encore, puisque Dieu devra intervenir chaque matin pour retrancher le méchant. Et puis, que de fois le mal n'est-il pas fait froidement, durement, délibérément, sans scrupule ni réflexion pour les catastrophes qui en résulteront. Que de fois le mal n'est-il pas fait pour le mal, sans autre but que celui-là? Pécher par inutilité ou par plaisir n'est pas chose rare. c'était le cas d'un vieux prophète rétrograde dont l'histoire nous est rapportée dans l'Ancien Testament. On la trouve dans le premier livre des Rois au chapitre 13. Repris dans sa conscience par le noble exemple d'un autre prophète qui était son cadet, cet homme lui a servi une histoire de sa pure invention, une fabulation à rendre jaloux le champion de la galéjade marseillaise. Mais c'était enveloppé dans un langage tellement biblique que ce jeune serviteur de Dieu inexpérimenté l'a cru. Mais le verset 19 de ce chapitre 13 dit, et je souligne, « Il lui mentait ». Et ce mensonge causa la mort du jeune homme. Le péché gratuit est chose aussi commune que le péché par intérêt ou par vengeance. Que personne n'accuse personne. Certains malheurs qui nous atteignent n'ont d'autre cause que nous-mêmes. C'est ce que dit l'Épître aux Éphésiens au chapitre 2, « Vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés ». Et les chaînes les plus lourdes sont celles qu'on s'est forgées soi-même, et les malheurs les plus pesants sont ceux qu'on s'est choisis. Pour le juste, il lui reste une consolation dans l'injustice dont il a pu être la victime. Mais, je vous le demande, quelle consolation reste-t-il pour celui qui est victime de sa propre injustice ou qui est pris à son propre piège? Le malheur, voyez-vous, c'est que nous avons sur le mal une sorte de courte vue. Nous voyons l'acte, l'avantage qu'on va en retirer dans l'immédiat, mais il faut la longue vue de la Bible pour connaître la prolongation du mal. Quand le mal est lancé, le péché décrit une ligne courbe avec effet boomerang qui entre-temps fait boule de neige. Le pécheur lance 1 kilo de péché qui lui revient en avalanche avec 10 tonnes de jugement. Ce qu'on ne prévoit pas, ce sont les conséquences lointaines, irréversibles et éternelles. Nous semons un péché à la dimension du temps présent et nous le récoltons à la dimension de l'infini. C'est vrai aussi dans le sens contraire et positif. Nous semons un gland et il pousse un chêne. Tout un chêne. C'est ce qu'enseigne la Bible en 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17. Nos légères afflictions du temps présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Jésus disait au serviteur fidèle, « Tu as été fidèle en peu de choses, et je t'établirai sur beaucoup. » C'est là une règle divine invariable. Et quand nous sommes tentés de céder au péché, il faut tenir compte du rapport temps-éternité, que ce soit pour le bien ou pour le mal. Si faire ce qui est juste semble trop pesant à porter, pensez-vous que la rétribution sera moins lourde? On croit plus facile de se décharger du poids du devoir ici-bas, et on ne pense pas qu'il faudra se charger de sa contrepartie dans l'éternité. Or, que je sache, le devoir est moins lourd à porter que la condamnation. Allez demander aux condamnés qui purgent les travaux forcés à perpétuité ce qu'ils pensent du geste qui l'a conduit là. Ça lui semblait trop dur de gravir le sentier escarpé de ce qui est juste et bien. C'était plus facile de s'abandonner à la haine et à la vengeance. Mais maintenant, il mesure l'étendue de son acte. Une heure d'injustice se paie d'une vie de regret et de souffrance. Allez demander aux damnés en enfer, qui ont préféré le chemin large de la désobéissance au chemin étroit du salut. Ils vous diront qu'une vie de légèreté se paie du poids effrayant d'une éternité de malheur. Les choses se mesurent par leur résultat final, n'est-ce pas ce que disait déjà le bon La Fontaine ? En toute chose, il faut considérer la fin. Ça peut sembler trop dur à un jeune homme de travailler sérieusement à ses études. Il préférera peut-être brosser les cours et courir les filles. Mais plus tard, il devra compenser sa négligence en travaillant plus dur. Ce qui ne compensera pas son insouciance des années précédentes. Il verra ce que les autres ont atteint. Il en concevra de l'amertume, et pour avoir ce qu'il a négligé, on le trouvera dans le rang des aigris, des perpétuels revendicateurs et des insatisfaits chroniques. Il devra supporter la contrepartie de sa légèreté. Et la contrepartie du mal, mes amis, c'est le malheur. Ce sont là des lois inviolables. Vous me direz peut-être, Fernand le Grand, l'expérience offre souvent un démenti à vos affirmations. Vous me direz, moi j'ai vu au contraire le mal rapporter gros, créer la richesse et donner du renom. Le psaume 73 l'avait dit avant vous, avant nous. Je vais vous lire un extrait écrit il y a 3000 ans. Je lis. Voilà ce qu'écrit le psalmiste après réflexion. J'étais sur le point de glisser, car je portais envie au bonheur des méchants. Tiens, le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Leur langue se promène sur la terre. Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent encore leur richesse. C'est donc en vain que moi j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour je suis frappé. Tous les matins mon châtiment est là. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que... Et voici la fin, les versets 11 à 19. Jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Le sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et tu les mets en ruine. Qu'il le veuille ou non, c'est son malheur que l'homme bâtit s'il construit avec les matériaux du péché. L'homme est un géant dans ce sens qu'il bâtit pour l'éternité. Sachant ces choses, quels soins ne devrions-nous pas prendre pour fuir la folie, nous attacher au bon sens et écouter les conseils de Dieu? Mais les hommes s'attachent à leur folie. Ils semblent parfois mettre dans leur vie le plus d'atouts possible pour atteindre plus sûrement le malheur. Leur conduite défie la raison et la catastrophe en est l'aboutissement. En Charente-Maritime, dans cette région côtière où se fait sur une grande échelle la culture des huîtres, chaque ostériculteur possède son bateau. Une dame de la région m'a raconté l'histoire insensée de cet homme qui avait acheté un nouveau bateau à Royan et qui vint en prendre livraison et qui voulut le ramener de suite chez lui. Quelques amis l'accompagnaient. C'était le moment le moins favorable, la marée descendante. Il allait faire nuit, et comble de folie, il n'y avait pas assez d'essence dans le réservoir. Ils avaient mis de leur côté tous les éléments pour que le voyage se termine en tragédie. Délaissant les conseils d'amis qui voulaient les retenir, ils partirent. Et ce qui devait arriver est arrivé. On retrouva leur corps sur le rivage et le bateau brisé sur les hauts fonds et les rochers. Sur un autre plan, des gens s'arrangent pour faire de leur vie un échec. Il y a quelques semaines, j'ai vu un jeune couple prendre une décision, je ne m'étends pas sur la chose, mais une décision qui ne pouvait que faire éclater leur union. On les retrouvera dans quelque temps le cœur ulcéré, leur foyer brisé et leurs jours de bonheur envolés pour toujours. Lorsque le célèbre cascadeur et aventurier Philippe de Dieuleveux et ses coéquipiers mirent leurs pneumatiques à l'eau dans les rapides d'Inga au Congo, ils firent ce que personne n'avait jamais tenté avant eux. Ils savaient qu'ils prenaient des risques maximum, au point que l'un d'eux se retira de l'expédition au dernier moment. Et il fut le seul à avoir la vie sauve. Les autres ne furent jamais retrouvés. Et si quelqu'un lance la barque de sa vie dans les rapides du péché, il ne faut pas s'étonner si son âme va s'écraser sur les rochers du jugement. Et sur le plan spirituel, la même chose se passe. À quel prix méprisable! Certains estiment-ils donc leur âme et l'éternité pour faire fi du bon sens le plus élémentaire? Voudraient-ils se perdre sciemment qu'ils ne feraient pas mieux et qu'ils ne feraient pas autrement? Car le plus grave des péchés, c'est, comme le dit le verset 11, c'est, je lis, « se révolter contre la parole de Dieu et mépriser le conseil du Très-Haut ». C'est tourner le dos à Jésus-Christ, le seul nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés, et ainsi s'exclure de toute possibilité de salut. De quelle hargne contre eux-mêmes sont-ils donc animés pour agir ainsi? Un homme riche haïra-t-il ses biens et invitera-t-il les pilleurs et les voleurs au rendez-vous de ses richesses? Or, notre âme, c'est le seul bien que nous soyons sûrs de garder toute l'éternité. Tout le reste va disparaître, mais le caractère que nous aurons façonné ici-bas est celui que nous aurons laissé façonner par Jésus-Christ. C'est tout ce que nous emporterons. Qu'emportera votre âme à son départ? L'image de Jésus-Christ ou l'empreinte indélébile de la révolte, de la légèreté, de l'avarice, du vice, de la bouderie, de l'insatisfaction chronique, de la mondanité, et j'en passe? Voyez le danger signalé au verset 18. Il touchait aux portes de la mort. Toucher aux portes de la mort avec l'âme marquée des stigmates du péché, une âme vierge des grâces divines, passer de l'autre côté de la porte pour vivre éternellement avec ces marques et avec ce vide. Heureusement que le verset 20 marque un changement. Je lis, « Il envoya sa parole et les guérit. » Et c'est encore ce que Dieu fait aujourd'hui. Lisons avec soin. Il envoya, qu'envoya-t-il? De l'argent? Son ange? Sa guérison? Non. Sa parole. Non pas des solutions, mais la solution. À un mal spirituel, il faut un remède spirituel. Certes, le Seigneur ne dédaigne pas à l'occasion des remèdes physiques et matériels, mais s'il les emploie parfois, il ne les met jamais à l'avant-plan et n'en fait pas une règle. Par exemple, Jésus et ses disciples avaient une bourse commune et elle servait aussi pour les pauvres. Mais Jésus, à un certain moment, était moins empressé de donner que Judas. Il n'a d'ailleurs pas donné à tous les pauvres de Palestine. Il savait que la générosité n'était pas la solution finale. Jésus avait la puissance de guérir, mais il n'a pas guéri tous les malades de Palestine. Pourquoi? Parce que ce n'était pas la solution finale. Il avait la puissance de résurrection, mais il n'a pas ressuscité tous les morts de Palestine. Et ce n'était pas non plus le remède final. Ces hauts faits glorieux n'étaient que des signes par lesquels il voulait attirer l'attention des gens sur des réalités plus grandes. Derrière ces corps malades, Il voulait qu'on voie les maladies de l'âme. Derrière ces mendiants aveugles, il voulait qu'on voie la pauvreté et l'aveuglement spirituel. Derrière ces familles visitées par la mort, il voulait qu'on voie la mort spirituelle de l'âme. Et c'est cela surtout qu'il voulait guérir, afin qu'au travers des âges et dans le monde entier, les malades et la santé de l'âme, les aveugles et la lumière dans l'âme, les mortels vivent de l'espérance de la vie éternelle. Et pour leur apporter cette guérison, Dieu a donné au monde, et je relis, il a donné sa parole, c'est-à-dire la Bible, parole de Dieu. Nous savons tous la puissance qu'il peut y avoir dans la parole d'un homme. Elle peut bâtir ou ruiner des empires. À combien plus forte raison quand c'est la parole de Dieu qui entre en action, elle aussi bouleverse des empires spirituels. Elle fait passer les âmes de l'empire de Satan au royaume de Jésus-Christ. Elle fait passer des hommes de l'empire de la mort au royaume de la vie. Prenant à témoin les chrétiens de son temps, Pierre leur a dit: vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Et il l'a défini, et il dit ceci: par la vivante et permanente parole de Dieu. Déjà Jérémie le prophète disait au peuple de la part de Dieu: ma parole n'est-elle pas un marteau qui brise le roc? Elle brise les résistances les plus dures. Et cette parole, mais c'est Jésus-Christ lui-même. Dans le prologue de l'évangile de Jean et dans l'Apocalypse, il est lui-même appelé la parole de Dieu. Il a la puissance de prendre un pécheur endurci et d'en faire un saint. Il prend un insensé et il en fait un sage. Il prend un violent et il en fait un agneau. Regardez la profondeur de leur perdition. Elle est décrite par un terme fort, la fosse, mais ils ont été tirés de cette fosse qui touchait au port de la mort par la puissance de la parole de Dieu. Oh, laissez-moi vous recommander la Bible, la parole de Dieu qui a la puissance de vous sauver. Les hommes, philosophes, gourous, sectes, religions d'invention humaine, nous propose un salut pour remonter les âmes de la fosse de la destruction. Mais ils n'y sont jamais descendus, et en tout cas, jamais remontés. Ceux qui y sont passés n'en sont jamais sortis. Les hommes vous proposent un salut pour vous éloigner des portes de la mort, mais comment le pourraient-ils puisqu'ils n'y sont jamais passés? Ce sont des discours sans force, qui équivalent à lire un traité de natation à quelqu'un qui se noie. Et si Jésus-Christ peut arracher quelqu'un de la fosse où il est tombé, c'est parce que lui, il y est descendu. S'il peut éloigner quelqu'un de la porte de la mort, c'est parce que lui, il y est passé victorieusement lors de sa résurrection. Ce que Dieu donne, c'est un salut qui va jusque dans l'âme de la perdition tout au fond pour y arracher sa victime. Jésus-Christ est entré au cœur de nos problèmes parce qu'il est entré au cœur de nos péchés. Il peut nous en sauver parce qu'il les a pris à son compte et les a expiés, ce qu'aucun homme, aucune philosophie, aucune morale ne pourra jamais faire, tandis que lui, il est venu là où nous étions. Ce péché que nous avions semé, il en a porté la récolte écrasante sur la croix. Le salaire du péché, c'est la mort, et il en est mort, lui qui ne devait pas mourir, parce qu'il n'avait pas péché, mais il a pris nos péchés. Il est pour l'homme perdu ce que la cage est pour les mineurs de fond dans nos houillères, l'instrument du salut qui descend au fond de la mine, où les hommes sont, et qui les prend en charge et les remonte à la surface. Je veux maintenant vous poser une question. Elle est difficile à poser, il ne vous sera pas facile de répondre. Mes amis, dans quelle fosse êtes-vous tombés? Vous me direz peut-être, Fernand le Grand, après ce que vous avez dit, je ne veux pas blâmer les autres, mais oui, je sais. Je sais ce que vous allez me dire. D'autres vous y ont fait tomber dans la fosse. C'est plausible, car cela aussi est écrit dans la Bible. Jésus a dit, « Si un aveugle conduit un autre aveugle, ils tomberont tous les deux dans la fosse. » Peut-être vous êtes-vous laissé conduire aveuglément par quelqu'un qui n'en connaissait pas plus que vous. Vous avez ajouté foi à des choses que vous n'avez pas vérifiées pour savoir si elles étaient exactes. Vous n'avez pas fait comme les gens de la ville grecque de Bérée, dont il est rapporté favorablement, et je vous lis, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ne seriez-vous pas tombé dans la fosse mentionnée dans le psaume 7, versets 15 et 17 ? Le méchant prépare le mal. Il ouvre une fosse. Il la creuse pour un autre, et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête, et sa violence redescend sur son front. Ne vous est-il pas arrivé de maudire quelqu'un en secret, de lui avoir souhaité de rater ses examens, de perdre sa place, de se casser une jambe? Et voilà que c'est vous qui y êtes tombé dans la fosse creusée. La Bible dit encore, « Celui qui creuse une fosse y tombe, et la pierre revient sur celui qui la roule. » Même si cette fosse n'était creusée qu'en pensée. Dans quelle autre fosse peut-on tomber? Oh, je n'ai pas de nom à vous proposer, mais je sais que, quel que soit son nom, Jésus-Christ est descendu, car voici comment il exprime lui qui était sans péché. Toute l'horreur de sa prise de contact avec nos péchés, on trouve ça dans le psaume 69, psaume prophétique. « Je suis tombé dans une fosse. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. » La croix de Golgotha a été pour son âme sainte un gouffre d'iniquité dans lequel il est descendu. Lui qui n'avait pas péché, il a été fait péché pour nous, dit 2 Corinthiens 5, verset 21. Il a pris notre place dans la condamnation pour que nous puissions prendre la sienne devant Dieu, pour que nous puissions dire avec le psalmiste, psaume 40, verset 3, « Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas, et il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. » Voici ce qu'il peut, voilà ce qu'il peut aussi faire pour vous, ce qu'il a fait pour moi. Mais cette puissance qui émane aujourd'hui encore de la parole de Dieu, si elle est surnaturelle, et elle l'est, elle n'a cependant rien de magique ou d'automatique. La puissance de l'Évangile dans une vie est liée à sa réception. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, mais le monde n'a pas été guéri pour autant. Pourquoi ? Parce que, il est écrit dans le prologue de Jean, chapitre 1, versets 10 et 11, « Parce que le monde ne l'a pas reçu, le salut est lié à la réception, comme au psaume 107, « Ils crièrent à l'Éternel et ils furent sauvés, et sauvés vous serez si vous recevez le Sauveur dans votre vie. » Le médecin Luc nous rapporte, au chapitre 23 de l'Évangile qui porte son nom, que deux malfaiteurs tombés dans la fosse des condamnés à mort ont subi la terrifiante sentence de la crucifixion. Si profond était leur endurcissement qu'ils maudissaient celui qui était crucifié entre eux deux. Mais l'un d'eux a tout à coup mesuré l'abîme éternel dans lequel ils allaient tomber, et il s'est produit en lui un revirement à 180 degrés. il a repris l'autre pour ses injures et ses blasphèmes, et lui a dit, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous c'est justice, nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal, n'a rien fait qu'il ne se dût faire. » Il se tourna alors vers Jésus, qui à côté de lui expiait ses fautes à sa place, et comme ceux du psaume 107, il lui adressa le pathétique SOS de son âme, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et lui aussi fut délivré de ses angoisses. Lui aussi reçut des lèvres de celui qui sera le juge de l'univers, l'acquittement le plus total qu'un homme puisse jamais espérer. Des lèvres quasi exsangues du Seigneur tombèrent ces paroles de libération. « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Il est dit de Jésus qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Cela veut dire que n'importe qui, dans quelque fosse qu'il soit tombé, peut à son tour, et sur le champ, être pardonné et sauvé pour l'éternité, si, comme les insensés du psaume 107 et le brillant de l'Évangile, il reconnaît ses péchés et crie à Jésus pour en être délivré. Que cela soit la part de chacun parmi nous ce soir, que personne ne se prive de l'occasion de faire la paix avec Dieu et de rentrer ce soir, le pas léger, le cœur léger, en route pour le ciel. C'est la seule, la plus grande bénédiction que je puisse souhaiter à chacun ce soir. Mes amis, bonsoir et que Dieu vous bénisse.